fait à l'œil, on a parcouru tout, on a fait la propagation de retenue, quoi. C'est-à-dire qu'on a, on a parcouru jusqu'à lever d'ambiguïté, et lorsqu'on arrive à lever l'ambiguïté, on remonte, donc il faut une feuille de papier, etc. Il est à remarquer que normalement, celui-ci n'est jamais ambigu. Celui-ci n'a pas de chiffre à droite, donc quand on met 0, on a effectivement 0. Et celui-ci, se terminant par un 0, on lit tout ce qui est au-dessus. Alors Chebyshev a essayé de se sortir un petit peu de ce truc-là, mais c'est pas très bien. Sur son tambour, il a mis des marques noires, indiquant il faut plutôt prendre le chiffre suivant en bas ou prendre le chiffre suivant en haut. Naturellement, entre 0 et 9, on ne sait pas. Donc il a mis un Y, en disant, vous voyez. Donc en suivant plus ou moins ce serpent, on est censé se tirer d'affaire. Donc j'ai pas de photo en couleur de ça, mais ça fait partie des notes de Chebyshev. Je sais pas si ça se voit sur les dessins précédents, où on voit vaguement ces signaux-là. Alors on peut se dire, finalement il est bien avec ces marques noires, mais il y aurait un moyen beaucoup plus simple, c'est d'avoir une cam sur un truc avec une flèche qui vous indique prenez plutôt le chiffre du haut, prenez plutôt le chiffre du bas, plutôt que d'avoir ce truc-là. Alors c'est effectivement ce qu'on a fait dans les machines qui suivent. Alors, exemple de lecture du totalisateur, je ne sais pas s'il est très très clair, mais il est tout à fait ambigu, là, il est hautement ambigu. En fait, ce 1 doit se lire 0, puisqu'il est suivi d'un 9, etc. Donc, ceci se lit 0, 9, 70, 300. J'ai mis un certain temps à être sûr que c'était bien ça qu'il fallait lire là-haut. Voilà, donc... Donc c'est écrit dans le mode d'emploi, etc. Donc effectivement, s'il y a des jeux, bah, ça sera, si c'est ambigu, ça le sera encore un petit peu plus ou un petit peu moins. Et malheureusement, la base 10 ayant la mauvaise propriété d'être pair, il n'y a que quand on est entre 5 et sus que c'est totalement non ambigu. 5, c'est pas mal. 9, c'est très mauvais. 0, c'est très mauvais. Alors, celle-ci a été reprise par l'additionneur de Bourou de 1910. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé du comptomètre de Felt et Tarrant, qui date de 1890 et quelques, 1885, un truc comme ça. Pardon ? Macaroni Box, c'est ça, oui, qui s'appelle Macaroni Box, parce que le premier qu'il ait fait, paraît-il, il était allé chez son épicier trouver une boîte en bois qui avait précédemment contenu des macaronis. Donc, c'était écrit macaroni sur son truc. Et donc ça s'était fait beaucoup plus tard. Et donc c'est un concurrent du comptomètre de Felt et Tarrant auquel il ressemble extérieurement, comme je dis. Et ces deux constructeurs se sont déchirés en procès qui ont duré longtemps. Bourou a, à la suite de ces procès, d'une part modifié l'aspect extérieur de sa boîte pour qu'elle ne ressemble pas au comptomètre de Felt et Tarrant. Et puis plus tard, il a modifié l'intérieur de sa boîte. Et donc, je pense qu'il y a eu plusieurs injonctions dans le procès. Enfin, que le fait de simplement changer la couleur, ça n'a pas dû suffire. Alors, comment... Pardon ?
Son petit-fils a décidé de ne pas être final.
Ah oui, alors, c'est vous qui m'avez parlé de... Non, son petit-fils.
C'est un descendant
de... Oui, mais c'est... Mais comment s'appelle le gars qui a fait cette collection de machines, là, qui avait fait un bouquin avec des très belles photos de collection de machines ? Vous m'en avez parlé tout de suite, là. Pardon ?
Jean Marguin, oui.
Alors Jean Marguin, il y a une erreur dans son truc qui m'a fait rire, me taper sur le ventre. J'ai bien rigolé parce qu'il dit que le petit-fils du bourreau, là, qui a inventé cette machine, est celui qui dessinait Tarzan. Parce que Tarzan a été dessiné par Edgar Rice Burroughs. Eh bien écoutez, c'est dans le bouquin de Jean Marguin. Et donc le petit-fils de Bourreau a fait, bon, il connaissait son grand-père, a fait un truc tout à fait intéressant qui s'appelle la machine à calculer ou la machine à... The Computing Machine, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, qui est une ressucée de 1789, mais avec des détails techniques dans lequel il dit que la société, avec Napoléon III et puis Victoria, est complètement, entre guillemets, informatisée par des machines mécaniques qui sont additionnés par des machines à vapeur, donc qui sont les machines de Babbage, et que ces machines communiquent par des axes qui parcourt donc le monde entier, qui passe la Manche ou je ne sais pas trop quoi. Et donc on a mis en fiche tous les citoyens, etc., avec des machines mécaniques. Donc, il décrit effectivement ces machines. Pardon ? Oui, mais c'est intéressant, c'est tout à fait. Il a décrit ça, mais il a placé ça à l'époque Napoléon III. C'est une histoire d'espionnage. Hein. Il a placé ça à l'époque Napoléon III Victoria. Voilà. Alors, dans ces machines, comme je vous le disais, comme vous l'avez dit précédemment, l'intérêt, c'est que l'on peut entrer plusieurs chiffres simultanément, comme dans un multiplier qu'on verra plus tard, en plaquant un accord. Et donc, peut-être pour vous, ils avaient un centre en Belgique où on entraînait des dactylos, qu'on appelait des dactylos parce qu'elles jouaient avec les doigts, elles ne tapaient pas qu'à la machine, à rentrer les trucs les plus vite possible. Donc il y avait un stage court où on apprenait à se servir de la machine et un stage long où on apprenait comme on apprend avec le piano. Et donc la jeune fille qui faisait ça balayait les touches, faisait un geste depuis le haut en descendant jusque là-bas et au passage des touches, elle enfonçait tout un chiffre d'un coup. Brom. Et donc ça allait, paraît-il, extrêmement vite. Avec, disent les articles d'époque, tous les problèmes de musculaires que ça entraînait, passer sa vie à enfoncer des touches, parce que c'était vraisemblablement plus dur que des touches de piano. Enfin, quoi qu'il en soit. Donc on a vu que la machine de Felt et Tarrant avait une petite approche tout à fait intéressante pour gérer le conflit entre la retenue et l'addition modulo 10 des nombres, qui était ce qu'on retrouve en informatique, une mutuelle exclusion, c'est-à-dire que quand un chiffre était occupé, on s'interdisait de lui ajouter une retenue. Et c'est seulement lorsqu'il devenait libre qu'on lui ajoutait la chose. Autrement dit, il y avait une espèce de priorité, priorité au clavier, priorité à l'utilisateur, etc. Alors on suppose qu'entre entre la frappe de deux chiffres, pendant que le clavier se relevait, il y avait suffisamment de temps pour propager la retenue. De toute façon, le clavier se relevait par un ressort, donc le fabricant était maître. Alors voilà, ça c'est un peu difficile, la façon dont ça marche, ce truc-là. Alors là, j'ai trois dessins de la même chose. Celui qui est totalement à droite, c'est une coupe d'engrenage. À gauche, c'est une coupe d'engrenage. Celui qui est au milieu, c'est effectivement ces engrenages vus d'extérieur. Et celui qui est à droite, c'est une abstraction de tout ça avec mes petits dessins. Comment ça se passe, comment marche cette petite machine? Eh bien, l'entrée commande une came, enfin un doigt, qui est représenté ici d'ailleurs. On ne représente pas ce qui touche. Donc l'entrée, on commence par la diviser. 18 et 18, ça ne divise pas. 12 sur 60, donc on commence par diviser l'entrée par 5. On stocke l'énergie dans un ressort. Et chaque fois que l'entrée passe de 9 à 0, on libère le ressort. Comment on libère le ressort? Eh bien, on a une espèce de roue